Merci beaucoup, Jean-Yves Mollier. Merci à vous tous d'être venus. Je remercie spécialement les organisateurs de ce colloque important, passionnant. Est-ce que vous me permettrez d'enlever ma veste, puisque je vais entrer en matière et ça me réchauffe un peu. Je vais donc vous parler de l'histoire de la censure et d'un problème que je trouve fondamental. Il faut, me semble-t-il, confronter ce problème que j'appellerai le manichéisme. On est tenté de réduire l'histoire de la censure à un récit simpliste qui oppose l'oppression à la liberté, et cela en tout lieu et en tout temps. Pourtant, si on regarde de plus près, et cela en consultant les archives, la censure apparaît comme un phénomène complexe lié à la littérature et aux questions de style, le sujet de ce colloque. Vous me direz peut-être qu'il faut commencer par une définition. Qu'est-ce que la censure ? Mais j'y vois un piège, car une définition risque de réifier la censure comme si elle était une chose en soi, analogue à une particule radioactive qu'on peut suivre dans le courant sanguin du corps, de n'importe quel corps politique. Pour ma part, je plaide pour une approche anthropologique qui voit dans la censure un élément d'un système autoritaire, mais un élément qui varie d'après l'organisation du pouvoir, les valeurs du régime et la culture politique. Ma méthode consiste à suivre les censeurs dans leur travail quotidien, de chercher à comprendre leur façon de concevoir leurs fonctions et de les étudier dans le contexte du monde politique et culturel qui les entoure. Cela exige beaucoup de recherches dans les archives, car il s'agit de voir l'exercice de la censure de l'intérieur et de le suivre au jour le jour. J'ai essayé de combiner cette approche avec une histoire comparée en étudiant la censure sous trois régimes pendant trois siècles. La France monarchique au XVIIIe siècle, l'Inde britannique du XIXe siècle et l'Allemagne communiste du XXe siècle. Commençons par le XVIIIe siècle en France, que vous connaissez sans doute bien. Voici la page de titre d'un livre tout à fait typique, « Nouveau voyage aux îles de l'Amérique », publié en 1722. Vous savez qu'au XVIIIe siècle, chaque livre légal doit porter un privilège qui est imprimé dans le texte même avec l'approbation d'un ou de plusieurs censeurs. Le concept de privilège est loin d'être le même que celui du droit d'auteur ou de copyright, qui n'existe en France que depuis 1793. D'après une série de d'arrêts du Conseil, notamment en 1723 et 1777, le privilège est une, je cite, « grâce du roi qui dépend de son bon plaisir ». Ce n'est pas une forme de propriété intellectuelle, malgré les prétentions de certains écrivains comme Diderot. L'approbation du censeur est donc nécessaire pour l'octroi du privilège. Et si on étudie les textes des approbations, on trouve des remarques comme les suivantes qui sont imprimées dans ce livre-ci. Et vous voyez en bas l'essentiel, la dernière ligne avec approbation et privilège du roi. Je vous montre donc les textes des approbations et une partie du texte du privilège. Vous ne pouvez peut-être pas les lire, mais je vais citer certaines remarques. Un premier censeur dans l'approbation imprimée, qui est professeur à la Sorbonne, remarque, je cite, « J'ai eu du plaisir en le lisant. Il y a une infinité de choses très curieuses. » Fin de citation. Un autre censeur souligne l'intérêt du livre pour les étudiants en histoire naturelle et il loue tout particulièrement le style. Un troisième censeur explique qu'il ne pouvait pas refermer le livre parce que le texte inspire, je cite, « cette douce, quoiqu'avide curiosité qui nous porte à poursuivre ». Fin de citation. Drôle de façon de penser pour les oppresseurs de la liberté de la presse, n'est-ce pas ? Le langage des censeurs dans les mémoires privées, les lettres qu'ils échangent entre eux n'est pas différent. Ils ne mentionnent que rarement des offenses contre l'État, contre la religion et les mœurs. On voit de tels livres, ceux qui offensent l'État, la religion, les mœurs, ne seraient jamais soumis aux censeurs. On les expédie directement à Amsterdam ou à Genève, où ils sont imprimés et d'où ils passent clandestinement en France. Dans leur correspondance privée, les censeurs parlent surtout du fond du livre, de son excellence par rapport au sujet qu'il traite et de son style. L'aspect esthétique domine dans le rapport quand il refuse de donner une approbation. Par exemple, un censeur déplore un livre comme, je cite, « une compilation sans goût et sans discernement ». Fin de citation. Donc ça, c'est le ton des mémoires, des lettres échangées en privé parmi les censeurs. Un autre censeur refuse de donner une approbation à un livre parfaitement orthodoxe parce que, je cite, « le style en est misérable ». Fin de citation. Dans leur rapport confidentiel, les censeurs s'expriment souvent comme des critiques littéraires. Ainsi, un censeur qui refuse de donner son approbation à un roman, je cite, « le sujet est frivole et ce défaut essentiel n'est point racheté par les détails. Ils ne sont ni ingénieux ni agréables. Je n'y vois que de fades moralités entremêlées d'aventures communes, des plaisanteries froides, des tableaux sans coloris, des réflexions triviales. Je crois qu'un pareil ouvrage ne serait pas digne de paraître avec une marque publique d'approbation. » Fin de citation. C'est tout à fait typique des refus des censeurs quand ils parlent des textes entre eux. Une remarque qui, pour moi, est typique, c'est un censeur qui caractérise son travail de la façon suivante. Je cite, « Je défends l'honneur de la littérature française. » Fin de citation. Cela n'a rien de surprenant, parce que beaucoup de censeurs sont écrivains eux-mêmes. Ils sont fiers de figurer dans l'almanach royal avec le titre « Censeur du roi ». Et parmi eux, on compte plusieurs philosophes, Fontenelle, Condillac, Suard et même Crébillon fils. Bref, la censure sous l'Ancien Régime est positive. Elle donne l'imprimateur du roi à un livre et elle en garantit l'excellence. Bien sûr, la réalité est beaucoup plus compliquée. Je ne vous parle pas des scandales connus comme celui de l'esprit d'Helvétius et de l'encyclopédie. Mais j'insiste sur l'importance de la censure post-publication ou de la police des livres prohibés. Il y a tout un commerce très développé de ces livres, comme je l'ai dit, imprimés hors de France et diffusés dans des réseaux clandestins. Plus que les auteurs, les libraires et les colporteurs sont hantés par la menace de la Bastille, qui n'était point un hôtel de 3 étoiles, malgré l'insistance de certains historiens. D'un côté, la censure proprement dite était positive, de l'autre côté, elle était oppressive, et les gens du livre en ont beaucoup souffert. Donc, je vous fais grâce de ces exemples des écrits des censeurs, mais c'est juste pour vous démontrer à quel point la censure était systématique, organisée sérieuse. Sautons maintenant 2 siècles pour parler de la censure sous la RDA communiste en Allemagne. Par un heureux hasard, j'ai passé l'an 1989-90 au Wissenschaftskolleg zu Berlin, où j'ai vécu la chute du mur. Un ami est-allemand qui était un éditeur dans la RDA m'a dit au printemps de 1990 « Tu t'intéresses à la censure en France ?» Ne voudrais-tu pas faire la connaissance de quelques censeurs ? L'idée de connaître, d'interviewer des censeurs en chair et en os, c'était incroyable. Donc, je me trouvais au printemps de 1990 à 19 Clara Zetkin Straße, au cœur de la bureaucratie de l'Allemagne de l'Est. Mais c'était après la chute de l'État, la chute du Parti communiste et avant la réunion des 2 Allemagnes. Mon ami avait arrangé cette rencontre en expliquant qu'il ne s'agissait pas d'une chasse aux sorcières. Je voulais simplement savoir comment les censeurs faisaient leur travail. La conversation a commencé avec une certaine délicatesse. Ce n'était pas très confortable puisque les censeurs n'avaient jamais vu un Américain. Cet animal étrange apparaît dans leur bureau et commence à leur poser des questions. Mais un des 2 censeurs, Hans-Jürgen Wesner, il m'a versé une tasse de café très gentiment, puis il me dit « Vous avez la censure chez vous ?» Oui, et je dis « C'est le marché !» Bon, je connaissais ce raisonnement, et puis je lui ai demandé « Mais vous êtes censeur, qu'est-ce que la censure d'après vous ?» Herr Wesner a tiré d'un tiroir un document épais comme ça, c'était le plan pour la littérature pendant l'année 1990. Il a répondu à ma question par un mot, la planification. La censure, c'est la planification. La littérature doit être planifiée comme toute chose dans un système socialiste. Et voici la première page du plan pour l'année 1990, une année littéraire qui n'a jamais existé. Il m'a donné le document, je l'ai étudié soigneusement, c'était fascinant. Puis il a tiré d'un autre tiroir un autre document moins épais qui s'appelait le Themenplan Einschätzung. C'était la défense du plan écrite par les censeurs pour justifier leur travail aux yeux du Parti communiste. Comme dans tous les systèmes dans l'Empire soviétique, il y avait effectivement deux organisations. D'un côté, et vous voyez en bas, une administration avec des ministères et en bas, les censeurs qui appartenaient au ministère de la Culture. Mais en haut, il y avait le système parallèle, c'est-à-dire l'organisation du Parti communiste avec Erich Honecker en tête et le comité central avec des départements. Un des départements s'appelait Culture. Il y avait donc, pour ainsi dire, deux centres du contrôle de la culture. D'un côté, sous le ministère de la Culture, les censeurs, et de l'autre côté, au sein du Parti communiste, ce département appelé Kultur. Les censeurs étaient dirigés par un homme qui s'appelait Klaus Höpke. Pour les censeurs avec qui je parlais, Höpke était un héros. Pourquoi ? Parce qu'il défendait la qualité de la littérature. Bien sûr, il respectait la valeur suprême de la RDA, c'est-à-dire Parteilichkeit, fidélité à la ligne du parti. Donc, ils étaient tous des apparatchiks convaincus de bons communistes, mais les censeurs étaient aussi partisans de la qualité. Donc, en créant le plan, ils essayaient d'y mettre de la littérature valable. Et c'était des gens bien cultivés. Ils avaient des doctorats de littérature allemande. Ils connaissaient Goethe et Schiller par cœur. Et ils voyaient dans le département de culture du parti un philistinisme opposé à leurs intérêts. Donc, leur chef, Klaus Höpke, une fois par an, prenait le plan sous son bras et il allait confronter les apparatchiks de la culture dans le Parti communiste. Il défendait le plan et son ennemi ou collaborateur, comme on veut, était une certaine femme farouche qui s'appelait Ursula Radwitz. Et Ursula Radwitz était un apparatchik terrible qui voulait à tout prix supprimer tout ce qui menaçait die Parteilichkeit, la ligne du parti. C'est-à-dire qu'aux yeux des censeurs, leur chef, Klaus Höpke, était un défenseur de la bonne littérature, qui était bien sûr socialiste, mais quand même une sorte de héros. Ils m'ont expliqué d'ailleurs qu'ils avaient beaucoup de sympathie pour les auteurs qu'ils censuraient. Ils les connaissaient très souvent. Ils étaient partisan du socialisme à visage humain, si vous avez entendu ce slogan. D'ailleurs, ils ont aussi expliqué que le vrai travail de la censure n'avait pas lieu chez eux, dans les bureaux des censeurs, mais se faisait auparavant dans les maisons d'édition. Et cela entre l'auteur et l'éditeur chargé de surveiller son texte. On ne donnait jamais un texte final à une maison d'édition, un texte complet, un livre complet. Au contraire, on commençait dès le début, même avant le début de la rédaction, à discuter du livre avec l'éditeur. Et puis, chapitre par chapitre, on négociait le contenu. L'éditeur était donc partie prenante dans la création du livre et l'éditeur, bien sûr, était un apparatchik qui défendait la ligne du parti. Mais c'était aussi un homme ou une femme de lettres qui voulait le meilleur livre possible dans les limites du système. D'ailleurs, ce processus de négociation, de complicité entre l'auteur et l'éditeur était encore moins important que ce qu'on peut appeler l'auto-censure. C'était l'auteur qui censurait dans sa propre tête son texte avant de le rédiger et pendant la rédaction. Il y avait un écrivain de roman détective qui s'appelait Eric Lurst. Et après la chute du mur, il a expliqué qu'il y avait un petit bonhomme vert dans son oreille. Et ce petit homme vert lui disait, quand il rédigeait, « Es-tu sûr que tu veux écrire cela ? Ça pourrait te faire des ennuis. » Le petit bonhomme vert existait dans les oreilles de tous les auteurs de cette époque-là. Donc, la censure était complexe. Elle existait à plusieurs niveaux et peut-être le niveau le plus important était le fort intérieur de l'écrivain. Ayant eu cette conversation avec les censeurs, je n'étais pas naïf, j'étais conscient du fait qu'ils voulaient se justifier eux-mêmes. Et je me suis dit donc, il faut confirmer ce qu'ils ont expliqué, je dois aller dans les archives du Parti communiste. C'était juste après la chute du mur, je me suis présenté aux archives près de la Alexanderplatz en Berlin-Est. Les archives du comité central du Parti communiste, et encore, ils ne savaient pas quoi faire avec un Américain, cet animal étrange qui demandait à consulter leurs archives. Mais comme il n'y avait pas de data, ils disaient, mais pourquoi pas ? J'ai donc pu sonder les archives et comme je suis revenu à Berlin pendant 5 ans pour plusieurs missions, j'ai continué ces recherches assez longtemps et j'ai consulté énormément de dossiers des auteurs et des censeurs. Ma première question était, est-ce que ces censeurs avec qui j'ai parlé étaient si libéraux, si ouverts qu'ils indiquaient dans leur conversation avec moi? Eh bien, j'ai trouvé qu'ils ont dénoncé certains auteurs, ils ont dénoncé même certains censeurs, et le chef, Klaus Höpke, était passablement stalinien lui-même. Euh, dans un rapport manuscrit de Höpke en 1978, j'ai trouvé un rapport sur la proposition de publier une édition des œuvres de Kierkegaard. Et je cite le rapport rédigé par Höpke, ce héros des censeurs. Si Kierkegaard appartient à notre héritage culturel, nous serions obligés d'accepter Nietzsche, Schopenhauer, Freud, Kafka. En décidant ce que nous accepterons de la littérature bourgeoise tardive, nous devons surtout prendre compte de la guerre idéologique des classes. Nous ne pouvons pas tolérer des attitudes individualistes par rapport au style de vie. Fin de citation. Donc, toute littérature moderniste était défendue. Dès qu'un éditeur, un censeur ou un membre du comité central du parti remarquait une déviation non seulement de la ligne du parti, mais aussi du style proscrit, réalisme social, par exemple, l'auteur était soumis à une discussion avec un censeur, un éditeur, un chef de la cellule communiste dans le syndicat des auteurs. Il fallait éviter tout ce qui sentait le style de la spätbürgerliche Literatur, c'est-à-dire le postmodernisme, Kafka, Proust, Joyce. Et il y avait des sanctions. Bon, il ne faut pas imaginer un goulag du type soviétique en Allemagne de l'Est pendant les années 70-80. Ce goulag existait bel et bien juste après la guerre, mais après, le système est devenu plus flexible. Sauf exception, par exemple l'affaire Wolf Biermann, en 1976, le contrôle s'exerçait par un processus de négociation, de compromis et de complicité, le tout sous la surveillance de la Stasi. La Stasi, la police secrète, était partout et j'ai découvert que j'avais mon propre dossier chez la Stasi. Après tout, je crois que les auteurs, comme les censeurs, croyaient dans les valeurs du système. Je crois qu'ils étaient de bonne foi. Ceux qui ne l'étaient pas s'immigraient à l'Ouest, ou bien ils se retiraient dans le silence et le cynisme. D'ailleurs, le régime avait des moyens de les manipuler. Comme tous les citoyens de la RDA, les auteurs désiraient acheter une voiture. On devait attendre souvent 10 ans pour acheter une petite Trabi, trouver un meilleur appartement, avoir la permission d'habiter dans une autre ville, faire accepter ses enfants dans une université et surtout voyager. J'ai suivi ces tractations dans des dossiers des écrivains les plus connus. À titre d'exemple, puisque je n'ai pas beaucoup de temps, mais c'était vraiment fascinant. On choisit un auteur et on voit toutes les négociations le long de sa carrière. Je prends donc l'exemple de Volker Braun, qui était l'écrivain le mieux admiré par la jeunesse de la RDA, mais qui était soupçonné de tendance trotskiste par les censeurs. Les chefs de la censure et de l'idéologie discutaient du problème de Volker Braun dans plusieurs réunions. Le 7 janvier 1976, par exemple, ils se réunissaient tous. Que faire avec ce jeune écrivain qui nous donne tant d'ennuis, mais qui veut rester communiste? Il ne voulait pas en faire un dissident. Il ne voulait pas qu'il s'échappe à l'Ouest. Il voulait, comme il disait, le lier à nous. Alors, ils ont décidé de se servir des moyens négatifs et positifs. D'abord, les journaux n'auront plus la permission de parler de ses œuvres. Ils n'étaient pas existants dans les revues littéraires. Et il devait faire une confession publique de sa fidélité à la ligne du parti, Parteilichkeit über alles. Mais, d'autre part, il publierait une édition de ses pièces de théâtre. Il lui donnerait la permission de s'abonner à Die Zeit, la revue, le grand journal de l'Allemagne de l'Ouest, et il l'enverrait à Cuba pour se reposer tout en faisant des recherches pour sa prochaine pièce de théâtre, Che Guevara. L'histoire de cette pièce illustre les contraintes du système. À l'horreur des censeurs, Brown faisait de Che un héros qui continuait la lutte révolutionnaire dans la Bolivie, tandis que Fidel Castro restait à Havane entouré de bureaucrates. La moralité pourrait très bien s'appliquer à la RDA d'Erich Honecker. Pendant plusieurs mois, les censeurs forçaient Brown à aménager son texte et je pouvais suivre toutes les étapes de cette réécriture du texte. Finalement, après qu'il a transformé le dernier acte, ils ont donné la permission à la Deutsches Theater de commencer les répétitions. Mais, 13 jours avant la première, l'ambassadeur de Cuba arrive subitement dans le ministère de la Culture et il dit non, 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 c'est impossible, cette pièce est une insulte à Fidel. Honecker lui-même a pris la décision finale et la pièce n'a jamais eu lieu. Je pourrais continuer et vous montrer d'autres exemples, mais je dois brièvement mentionner Christoph Wolff, qui était l'écrivain la plus connue en Allemagne de l'Est, la plus respectée. Elle était une sorte de voix de moralité, mais en même temps un bon communiste. Elle était si puissante de point de vue moral qu'elle avait certaines facilités chez les censeurs. Par exemple, quand il biffait certains passages de ses livres, elle avait le droit d'exiger qu'on mettait des parenthèses avec trois points pour indiquer où un passage a été éliminé. Et vous voyez à la gauche, en haut, les trois points. C'est assez clair, j'espère. Elle avait aussi la permission de faire éditer une version intégrale du livre en Allemagne de l'Ouest. Eh bien, en Berlin-Ouest, on prenait la version intégrale et on tapait les passages qui ont été éliminés par les censeurs. Et ces morceaux tapés à la machine circulaient en Berlin-Est. On m'a donné une collection de ces morceaux tapés à la machine. On les insère là où il fallait et subitement le texte devient beaucoup plus fort. Donc voici un exemple, vous voyez le texte tapé à la machine inséré là où il devait paraître. Donc, il y avait toutes sortes de combines pour échapper à la censure. Je dois aller vite. Jean-Yves, dites-moi si je parle trop longtemps. Je voudrais simplement, mais je n'ai pas le temps, vous parler un peu de la censure opérée dans l'Inde britannique au XIXe siècle. Je pense qu'elle illustrait parfaitement la formule de Foucault, surveiller et punir. Et cela d'autant plus qu'elle dérivait d'une contradiction fondamentale entre l'impérialisme britannique et le libéralisme britannique. Les chefs qui ont construit le Raj, c'est-à-dire le régime britannique au XIXe siècle, étaient des libéraux convaincus, depuis James Mill, John Stuart Mill et Thomas Babington Macaulay jusqu'à John Morley, qui, au début du XXe siècle, était le secrétaire pour les affaires de l'Inde et le biographe de Gladstone. C'étaient des gens qui croyaient dans la liberté de la presse, et notamment d'après le fameux moment 1695, quand la censure pré-publication a été abolie. Il croyait dans le système des jurys, il croyait vraiment dans la liberté de la presse, mais il devait régner sur tout un sous-continent de millions d'Indiens qui étaient exposés à la force majeure. Donc, comment faisait-il pour contrôler la littérature? Il s'opposait à la censure pré-publication, mais il tenait des rapports secrets sur tous les livres publiés dans toutes les langues indiennes, plus de 200 000 livres depuis 1868 à 1914. Voici un exemple des rapports qui étaient secrets mais imprimés pour circuler dans le Indian Civil Service. Ayant épluché plusieurs centaines de ces rapports, je suis convaincu que les maîtres du Raj laissaient publier librement des ouvrages obscènes et même subversifs à leurs yeux. Ils utilisaient parfois le terme subversif, mais il laissait publier jusqu'à ce qu'il arrive une crise. Et effectivement, une crise est survenue en l'an 1905 avec la partition du Bengale. Mais la partition déclenchait une révolte terroriste et à ce moment, les agents du régime arrêtaient, jugé et condamné un grand nombre d'auteurs, d'éditeurs et d'imprimeurs. La répression était très sévère. J'ai même trouvé qu'un livre qui circulait librement en 1838 était condamné et banni en 1909, 70 ans plus tard. Donc le sens du livre a complètement changé grâce au contexte politique. Je pourrais entrer en d'autres détails, mais je dispose de peu de temps. Je dois donc arriver à ma conclusion. La censure de livres était répressive, certes, mais elle variait d'après la nature des régimes. Dans les trois cas que j'ai discutés, elle était un élément en conformité avec les principes fondamentaux des régimes. Le privilège en France, la surveillance en Inde et la planification en Allemagne de l'Est. Loin d'être limitée au travail de quelques bureaucrates, la censure pénétrait tous les aspects de la littérature, le style compris. Et dans chaque cas, elle s'exerçait par un processus complexe, par un monopole du pouvoir, certes, mais aussi par la négociation, le compromis et la complicité des auteurs. George Bernard Shaw disait que la version la plus extrême de la censure était l'assassinat. C'était la version de Staline. Mais la version la plus commune était l'auto-censure, car chaque écrivain portait un petit bonhomme dans son oreille et chaque voix intérieure exprimait des contraintes extérieures. Les exercices de style variaient donc énormément, mais l'oppression était partout. Merci.